top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MGV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40, merci d'écouter France Inter, c'est le dernier instant même de la semaine.
Vous êtes en direct, allez-y.
L'histoire de Marianne, c'est la provoque, la fronde, la grogne et la cogne. Mais comment se faire entendre dans le registre punching ball alors que le débat public n'est fait que de clash et d'excommunication? Marianne tapait sur Nicolas Sarkozy et ça lui réussissait. Sous Hollande, le journal semblait atone. Sous Macron, où est-il? Que veut-il? Sa ligne politique est moins claire que son combat pour la laïcité. Mais dans les débats sur l'islam, de qui Marianne partage-t-il la ligne éditoriale?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
C'est sérieux comme question, c'est très très sérieux pour un vendredi matin. Bonjour Renaud Delis.
Bonjour Sonia De Villers.
Directeur de la rédaction de Marianne depuis 2016. Un mot d'actu, le jeu du vendredi, la chronique de Cyril Petit et on y vient à Marianne. RT, Russia Today, chaîne d'infos financée par le Kremlin, commencera à émettre en France dans une dizaine de jours. On sait déjà que l'un des visages de BFM TV, Stéphanie de Muru, rejoint cette nouvelle rédaction, comme d'ailleurs plusieurs anciens de iTélé, aujourd'hui sans boulot. Preuve que RT s'est largement banalisé, dédiabolisé, pourrait-on dire, pas seulement pour le public, mais aussi pour le métier. À suivre néanmoins l'évolution de la chaîne aux États-Unis, d'abord contrainte de s'enregistrer comme agent de l'étranger, et maintenant privé d'accréditation au Congrès américain. Le porte-parole du Kremlin a promis une réponse, je cite, « assez émotionnelle » de la part des législateurs russes concernant les médias américains. L'instant Madeleine, le jeu de l'instant M. Allez-vous reconnaître, je suis sûre que oui, les quelques secondes de son que nous allons vous diffuser? Alors, vous m'envoyez de rechef un mail à l'instantm@radiofrance.com. Moi, je vous offre la révolution cubaine en images. Ce n'est pas une blague, c'est un fond historique. Ça fait beaucoup rire. C'est France Inter dans toute sa caricature. Ben non, pas du tout. Les actualités cubaines de 1960 à 1970. Et c'est un fond restauré par Lina. Voici ma question. Qui est au micro?
Vous êtes nombreux ce soir à vous intéresser à la fois à l'Europe et aux Pays-Baltes, et on l'a dit tout à l'heure, en distinguant bien les trois États. Gilles d'Orléans est en ligne, je crois. Bonsoir Gilles.
Alors, ça vous rappelle des souvenirs? Bon, Renaud Delis a déjà trouvé, il va peut-être gagner les actualités cubaines et ça ne va pas lui faire de mal. L'instant M à radiofrance.com. On va s'occuper de vous remettre politiquement à l'endroit. Renaud Delis. Cyril Petit, bonjour.
Bonjour Sonia.
Rédacteur en chef central du JDD qui sillonne régulièrement la France de la PQR, presse quotidienne régionale, à travers de tout petits changements. Vous allez nous en raconter de plus grands, Cyril.
Vous vous souvenez, Sonia, de ces photos en randonnion qui fleurissaient dans la presse régionale?
Ouais.
On les trouvait pour l'Assemblée Générale des Boulistes, la kermesse de l'école, le bal du troisième âge, on appelle ça la locale miroir. Eh bien, elles disparaissent petit à petit, ces photos. Avant, 30 personnes sur une photo faisaient 30 ventes du journal. Cette équation, elle n'est plus vraie. Aujourd'hui, l'une des 30 personnes, hop, photographie l'article, la met sur Facebook, tout le monde y a accès, le journal est pillé et pas un exemplaire de plus n'est vendu.
Voilà, plus de local miroir. Facebook, c'est donc un concurrent féroce en fait pour la presse locale, on le dit pas assez.
Oui, avant les associations, elles avaient besoin des journaux pour exister, pour communiquer. Désormais, elles ont leur propre page Facebook qui raconte la vie conviviale locale en instantané, en direct, en photo et en vidéo. Pour faire état de cette vie locale, la PQR ne peut plus concurrencer le réseau social qui est très implanté, y compris chez les personnes âgées.
Là, un chiffre, on le dit pas assez.
43% des plus de 65 ans sont sur les réseaux sociaux et ça ne cesse évidemment d'augmenter.
Bon, alors ils attendent quoi les lecteurs de leur journal local aujourd'hui qu'ils ne trouvent pas sur Facebook?
Un mot, utilité. Ils attendent des infos utiles, en lien avec leur territoire, avec leur quotidien. Ça concerne l'éducation, l'emploi, les travaux, la santé. Ils veulent aussi de plus en plus des enquêtes. Pendant longtemps, l'info locale, elle a d'abord concerné les gens qu'on voyait sur la photo.
Sur la locale miroir,
voilà,
en fait.
Voilà, exactement. Ouais. La Voix du Nord, par exemple, qui est un des titres qui s'est le plus réinventé ces derniers mois, a opéré un virage éditorial assez fort en instaurant une règle assez simple, un article peut être publié si et seulement si il concerne des gens au-delà des personnes citées et donc au-delà des personnes sur la photo.
Ça a l'air d'une évidence. Ouais, ça paraît complètement évident.
C'est une petite, voire une grande révolution, ce changement de traitement de l'info locale.
L'idée qu'il faut que l'info concerne des gens au-delà de la photo.
Exactement. Exit donc le compte-rendu d'une assemblée générale annuelle des chasseurs. Autre exemple, Nice Matin qui développe son journalisme de solutions. des portraits de Varrois qui ont réduit leur facture d'électricité, des azuréennes, qui apprennent le chinois contre Alzheimer, ou encore on nous fait découvrir les coulisses de la brigade anti-mégots, le tout sous forme participative. À Nice Matin, c'est parfois les lecteurs qui choisissent les sujets qu'ils veulent voir traités par les journalistes.
Voilà, alors il y a quand même des patrons de presse, Cyril, qui vous ont raconté ce qui suscite le plus de plaintes chez leurs lecteurs. C'est quand même jamais ce qu'il y a dans les articles.
Quasiment jamais. Ouais. Dans les lecteurs, dont beaucoup sont abonnés, ils se plaignent et ils téléphonent dans deux cas principaux. Le premier, quand leur journal est livré en retard. Alors ce matin, le téléphone chez Ouest France va sonner. Hein. Cette nuit, il y a eu une grève qui a compliqué la distribution et l'impression. Donc à mon avis, les lecteurs vont pas mal téléphoner chez Ouest France. Autre raison de ces appels, quand il y a une erreur dans les mots croisés,
voilà. Donc les journaux régionaux ne peuvent pas se passer de ce qu'on appelle les pages services.
Alors ça dépend, il faut faire des choix. Encore une fois, un journal doit être utile. Pendant une semaine, par exemple, une locale du Dauphiné Libéré a publié un mauvais programme ciné. Personne ne s'en est rendu compte. Aucun signalement. Preuve que les lecteurs, pour le ciné, ils font
voilà,
autre chose.
Ils trouvent chose. ça ailleurs.
Exactement. La bourse aussi, on peut l'enlever et ça passe quasiment inaperçu. Mais l'an passé, l'Est républicain est passé du jeu des 7 erreurs au jeu des 5 erreurs. Ça a été un tollé.
D'accord.
Attention aussi à l'horoscope. Une dame a signalé à son quotidien préféré que sa prévision du jour était la même que le même jour de l'année précédente. Là aussi, ça... ça passe pas.
On apprend ça par cœur. Voilà.
On touche pas donc à la météo, on touche pas évidemment aux pages nécrologiques qui sont parmi les plus lues de la presse locale, les plus épluchées. En témoigne la première ligne de se faire part de décès parue il y a quelques mois. L'épouse s'adresse à son mari défunt, elle lui écrit « Te voici dans la rubrique que tu lisais tant ».
C'est joli. C'est très joli, Cyril. Merci Cyril Petit. Alors voilà, nous avons un gagnant. Il s'appelle Raphaël. Il a reconnu Renaud Dely.
Alain Bédouet.
Il a reconnu 28 ans de téléphone sonne. Et il faut quand même vous dire que au standard, enfin c'est pas le standard puisque nous ne sommes pas le téléphone sonne, sur l'adresse mail de l'émission, il y a beaucoup de gens qui ont répondu Nicolas Demorand. Voilà. Alain Bédouet sort de ce corps. C'est ce que je dirais à Nicolas Demorand la prochaine fois que je le verrai.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne depuis 2016. Question d'abord sur la santé financière de Marianne qui a été placée en redressement judiciaire, qui a connu la cessation de paiement et de nombreux départs à la rédaction. Des pertes aussi assez lourdes en 2016.
Et malgré, nous sommes sortis donc cette période de redressement judiciaire que vous évoquez au mois d'août. Il y a effectivement, on a dû alléger la masse salariale malheureusement comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont partis. Et grâce à tous ces efforts de redressement du journal, le journal va bien aujourd'hui. C'est-à-dire que le journal, il faut savoir que c'est un des rares journaux qui, à la fin de l'année 2017, va gagner de l'argent. Le redressement judiciaire nous a permis de rééchelonner, en fait, un certain nombre de dettes, de renégocier un certain nombre de dettes avec des créanciers. Ce qui fait que cette période difficile, délicate, on va dire, nous en sommes sortis au courant de l'été et qu'aujourd'hui, Marianne se redresse et va d'ailleurs le démontrer dans le courant de l'année 2018 parce qu'on a énormément de projets rédactionnels, d'une part, pour le premier semestre 2018, où on va enrichir considérablement le journal et puis on va aussi se renforcer, y compris d'ailleurs
sur le plan humain. C'est-à-dire vous allez recruter.
Oui, dans le courant de l'année 2018, ce sera le cas, donc premier semestre de 2018, parce que le journal est sorti de cette période difficile et qu'évidemment quand on il s'agit maintenant de rebondir justement et de penser le Marianne de
parce
demain
que de
et
de l'avenir. Il y en a toujours aussi peu dans Marianne. J'imagine que des unes du type comment les patrons dirigent la France, ça fait toujours autant fuir les annonceurs.
La grande faiblesse de ce point de vue-là, c'est notre grande force en fait, c'est-à-dire que nous sommes un journal indépendant. Oui. Et le fait d'être un journal indépendant fait qu'effectivement, il y a un certain nombre d'annonceurs, par exemple dans le domaine du luxe ou autre, qui ont parfois un regard un petit peu critique, on va dire, pour parler par euphémisme sur le journal. Mais c'est cette indépendance qui fait notre force vis-à-vis de notre communauté de lecteurs. C'est-à-dire qu'on a un vrai attachement du lectorat, d'une part, et puis d'autre part, on a un envol de l'audience sur le numérique, qui est vraiment extrêmement spectaculaire. On a aujourd'hui à plus de 6 millions de visiteurs uniques. Et ça, évidemment, aujourd'hui, tout l'enjeu est de...
Enfin, vous partiez tellement bas, Renaud Dely, que forcément, ça ne pouvait que s'envoler.
Bien sûr, mais en même temps, il y a un vrai enrichissement aussi du contenu. Et puis, on a surtout créé maintenant une zone payante qui progresse doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que tout l'enjeu maintenant, c'est évidemment de monétiser cet afflux d'audience.
Quant à votre diffusion papier, elle reste stable, ce qui est là aussi quasi un exploit vu le paysage de la presse magazine. 52 000 exemplaires en moyenne vendus en kiosque, 147 000 en moyenne avec quand on comprend les abonnements aussi. Pour donner une échelle, on va dire, l'Express est tombé à 26 000 et même parfois certains mois à 17 000 numéros vendus en kiosque, c'est dramatiquement bas. Dramatiquement bas pour un acteur historique de la presse magazine française.
Bah, je vais pas commenter les chiffres de nos concurrents, même si je sais que le marché est extrêmement difficile, comme on dit, pour l'ensemble de la presse. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, Marianne, je pense, c'est un centre d'atout. D'abord, vous le disiez, on a des chiffres, on est en hausse, même sur l'année 2017 en kiosque. Alors évidemment, le contexte électoral nous a servi, comme d'autres, mais on a une hausse plus importante. Et je pense que Marianne est un journal qui a un ADN assez fort, on va y venir, sans aucun doute, qui explique ce lien à nos lecteurs et qui explique notre résistance et même notre progression, y compris sur, pour ce qui est donc des ventes papier. C'est-à-dire qu'il y a une vraie communauté de lecteurs qui attendent Marianne un certain nombre de choses, d'engagement et qui a un lien très fort et qui nous appelle, par exemple, ou qui nous écrit. Moi, j'ai énormément de courriers, pas simplement des mails. J'ai énormément de courriers, même y compris des lettres papier de gens qui nous écrivent parfois pour nous engueuler, bien sûr, et c'est normal, mais aussi parfois pour nous féliciter ou pour être publié dans Marianne. C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien interactif, une dimension participative qu'on va d'ailleurs enrichir dans l'année qui vient.
Et puis il y a une nouvelle concurrence qui entre dans les tuyaux. On a l'impression que la formule de l'hebdomadaire, la périodicité de l'hebdomadaire revient à la mode. Les éditions des Arènes vont lancer l'hebdo d'ici très peu de temps. La Croix va lancer son hebdo du week-end. C'est-à-dire qu'on pensait la formule morte et enterrée avec le web et l'instantané. Je crois
qu'effectivement il y a un vrai avenir pour les hebdos. Dès lors qu'ils ont quelque chose à dire. C'est que je pense que dans cet univers médiatique que vous connaissez mieux que quiconque, qui est explosé, où on a une offre surabondante, seuls survivront demain et se développeront les journaux, hebdo ou pas, mais en l'occurrence, là, on parle du marché des hebdos, les hebdos qui ont quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas simplement de l'information ou de l'enquête à livrer, puisque ça, on a beaucoup d'informations surabondantes sur des tas d'autres moyens d'information, mais qui ont une vision du monde, qui ont une participation au débat public. Alors, ce qui explique ce lien justement avec
quelle
avec
est votre vision du monde aujourd'hui en France fin 2017 post-élection électorale face à Macron, que vous qualifiez, je cite, d'égotique, d'arrogant, de malné, président des riches, exactement comme l'était Sarko, d'élu qui ne respecte décidément ni grand chose ni grand monde, de président cachant une inquiétante conception du pouvoir plus verticale que jamais, mais aussi de très courageux, par exemple lorsqu'il ouvre la PMA pour tous. Vous avez par exemple des couvertures qui disent la révolution Macron pour le meilleur et pour le pire. Bref, c'est pas très clair et surtout c'est pas très méchant. Vous êtes où vis-à-vis d'Emmanuel Macron,
Marianne? Eh bien justement, Marianne, je vais essayer de vous éclairer,
enfin,
Sonia.
Renaud Dely.
Je vais essayer de vous éclairer, Sonia de Villers, et l'ensemble des auditeurs. C'est que nous ne tombons pas dans ce binarisme, justement, cette conception binaire qui consiste à être systématiquement pour ou systématiquement contre. Marianne est un journal de combat, un journal de conviction, un journal militant, mais pas partisan. Donc il y a des choses sur lesquelles, évidemment, nous sommes foncièrement critiques sur Emmanuel Macron et sa conception du pouvoir et sa politique depuis un peu plus de 6 mois. Notamment sur la question des inégalités. Il y a un sentiment qui peut flotter d'injustice dans la politique gouvernementale entre, pour faire court, entre la suppression, enfin la réduction des APL et la suppression de l'ISF, la balance nous semble évidemment inéquitable. Mais à l'inverse, vous évoquiez l'ouverture de la PMA ou le discours, par exemple le discours qu'a tenu Emmanuel Macron en Afrique ces derniers jours, l'enterrement de la France-Afrique ou l'engagement européen d'Emmanuel Macron, nous y sommes assez sensibles. C'est-à-dire qu'il y a là une forme de volontarisme politique à laquelle on peut être sensible. Marianne, il faut bien comprendre que ça n'a jamais été, depuis 20 ans que ce journal a été créé par Jean-François Kahn, ça n'a jamais été un journal qu'on mettait systématiquement dans une case ou dans l'autre, à droite ou à gauche, et aujourd'hui pro ou anti-Macron. C'est un journal qui prône justement une forme de dépassement, de recherche d'une troisième voie.
On sent que c'est encore plus compliqué qu'avant.
Non, pas du tout, vous m'avez très très bien compris, je sais bien. Non, être systématiquement pour ou contre, je pense que c'est ça qui tue un certain nombre de journaux.
Ce logiciel-là est mort.
Et ce qui intéresse souvent les lecteurs, c'est qu'ils ne savent pas effectivement forcément par avance ce qu'ils vont trouver dans Marianne. Si vous achetez un journal en sachant avant même d'avoir versé vos 2, 3, 4 euros ce que vous allez trouver dedans, forcément l'intérêt de l'acheter d'une part et de le lire perd un petit peu de sa substance.
Alors, il y a pour le coup des combats et des lignes éditoriales que le lecteur sait par avance trouver dans Marianne et assez systématiquement dans Marianne. Marianne qui a toujours été militant de la laïcité, même d'une laïcité républicaine, ni souple ni intransigeante, je vous cite Renaud Dely, indépassable valeur républicaine, synonyme de liberté et de tolérance. La laïcité, ce combat pour la laïcité est partout dans Marianne, dans vos pages histoire avec Jules Ferry, dans les pages débat avec un récent débat entre Toby Nathan et Cazeneuve. Caroline Fourest, qui était collaboratrice à Marianne bien avant avant votre arrivée.
Non, elle est arrivée à la fin du matin. Enfin, elle écrivait oui. régulièrement, ça arrivait, mais elle est chroniqueuse en fait depuis un peu plus d'un
oui,
an,
en septembre 2016. Mais la signature de Caroline Fauvrest, elle date d'avant votre arrivée.
Non. Enfin bon, peu importe. Comme chroniqueuse régulière du journal hebdomadaire, c'est depuis.
D'accord.
Mais il est arrivé de piger de temps à autre, évidemment,
d'accord,
dans Marianne, bien sûr.
Donc comme chroniqueuse régulière, d'accord.
C'est un détail, en tout cas.
Donc, tête de pont dans l'affaire Ramadan, islamologue aujourd'hui accusé de viol. Voilà, ça donne des éditos nombreux sous votre plume, disant que Tariq Ramadan, fauné de l'islamisme repeint par une brochette d'idiots utiles, la complaisance de ces idiots utiles de l'obscurantisme n'est pas seulement naïve ou stupide, elle est criminelle. Je voudrais bien comprendre, Renaud Dely, qui sont les idiots utiles qui reviennent sans cesse dans vos éditos et surtout qui sont les idiots utiles des médias français.
Il faut bien comprendre que si vous dites que la laïcité, c'est effectivement un engagement et un combat de Marianne, je disais que Marianne...
De longue date,
bien sûr, ça fait partie de l'ADN de Marianne, parce qu'on situe effectivement sur de la défense de valeurs et la laïcité au premier chef. Marianne, comme son titre l'indique, c'est un journal républicain, et pas simplement de défense du régime républicain, mais des valeurs républicaines. Et la laïcité en fait grandement partie. Vous le citiez à juste titre, moi je pense que la laïcité, il ne faut pas l'adjectiver. Hein, elle ne doit pas être ni souple, ni apaisée, ni positive, mais elle ne doit pas être non plus radicale, intransigeante, ou que sais-je encore. La laïcité en tant que telle, c'est un concept de tolérance de tous et de respect de chacun qui est remis en cause aujourd'hui. Si on en parle systématiquement, comme vous dites, c'est parce que c'est un enjeu qui est éminemment contemporain et qui a un certain nombre... d'idiots utiles ou de complices d'une forme de communautarisme. Bah, par exemple, Edouard Plenel, je ne doute pas qu'on va en parler.
Il s'est excusé ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC, qui a reconnu que le terme de guerre à l'islam était inapproprié dans ce contexte.
Guerre à l'islam qu'il avait, vous vous souvenez, attribué à nos amis de Charlie Hebdo.
Guerre aux musulmans, absolument.
Donc, de guerre contre les musulmans qu'il avait attribué à nos amis de Charlie Hebdo. Écoutez, si Edouard Plenel est sur le bon chemin, peut-être verra-t-il un jour la lumière
des médias français. C'est Edouard Plenel, c'est Edouard Plenel.
Non, c'est pas le seul. C'est que globalement, il y a, je pense, une frange de journalistes ou d'intellectuels, pas uniquement des médias d'ailleurs, ou d'universitaires, qui n'ont pas bien compris ce qui s'est passé depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause de la laïcité. Jadis, dans l'histoire, elle a été remise en cause par des intégrismes religieux d'autres monothéismes, bien sûr. Et il faut toujours être vigilant, on l'a vu, y compris
ça,
à l'occasion de la manif
bien.
Pour tous.
Je reprends un autre de vos éditos, Renaud Dely. Un peu partout dans les cercles bien pensants, on entend de bons esprits rivaliser d'imagination pour s'apitoyer sur le destin de ces malheureux terroristes islamistes. Qui sont les cercles bien pensants? J'ai eu Elisabeth Lévy à ce micro. Je lui ai demandé de m'expliquer qui étaient les bien-pensants. Ancien patron de la rédaction de France Inter, de Libération, du Nouvel Obs, qui travaille également sur Arte, 28 minutes. Qui sont pour vous les bien-pensants que vous dénoncez?
Alors, on a cité Louis Plenel, on peut citer l'universitaire Pascal Boniface, par exemple, et quelques autres. C'est-à-dire qu'il y a une frange, me semble-t-il, d'intellectuels, d'universitaires ou de journalistes qui renversent les rôles et qui font de la laïcité un glaive, quelque chose d'agressif, alors que la laïcité, c'est un bouclier, c'est ce qui nous permet à tous de vivre ensemble. Et la vraie guerre contre les musulmans, c'est pas Charlie Hebdo qui l'amène, c'est pas les défenseurs de la cause laïque, c'est pas les défenseurs de la laïcité.
Ce sont les islamistes.
Mais il faut le dire,
c'est
important
absolument
de le dire.
Ce sont les
islamistes et les premiers ennemis des musulmans, parce que les musulmans sont les premières victimes de l'offensive
islamiste. Est-ce que vous rejoignez en cela Le Figaro, Le Point, qui partagent en gros, ces mots, ces positionnements? C'est intéressant parce que c'est une façon de reconfigurer les clivages dans la presse française.
Non, parce que là, vous essayez de me cataloguer comme étant... Évidemment que dans Le Figaro, il y a énormément de choses avec lesquelles je suis totalement en désaccord.
Voilà.
Mais il peut y avoir des défenseurs de la laïcité, y compris à Libération, au Monde...
J'essaie pas de vous cataloguer. Tout ça vous paraît évident et mérite d'être vraiment expliqué pour le public, parce que ça devient très compliqué et totalement hystérique comme débat.
Justement,
je vous demande justement de l'expliquer.
Justement, je l'explique en me plaçant sur le terrain des valeurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se ranger dans une catégorie à droite ou à gauche, d'être compagnon de route du Figaro ou de Libération. Il s'agit d'expliquer ce qu'est la laïcité.
Oui, mais là, vous retrouvez compagnon de route du Figaro ou du Point, par exemple.
Non, parce que vous avez aussi dans le Figaro ou dans Valeurs Actuelles des individus, des journalistes, des intellectuels qui se déguisent en faux militants laïcs, mais qui en fait professent un extrémisme laïque qui, lui, vise uniquement à combattre une religion, l'islam, en l'occurrence. C'est évidemment pas... Marine Le Pen n'est pas laïque, par exemple, soyons très clairs. Marine Le Pen et le Front National ne sont absolument pas des mouvements laïcs, sont des mouvements qui se déguisent en militants de la laïcité pour combattre une religion et ben, les pratiquants
d'islam. Vous voyez que ça mérite d'être expliqué tout ça.
Ah, bah, non, mais attendez, ça, je pensais quand même que c'était quand même assez clair.
Non, c'est pas si clair
que
ça.
Il faut le répéter. Et Renaud, le meilleur moyen que ce soit clair, c'est d'acheter Marianne tous les vendredis.
Voilà, qui est en kiosque. Les nouveaux censeurs, c'est la une de Marianne ce matin en kiosque. Merci Renaud Dely.
Merci Sonia Deville.